France Musique.
Alors moi, il m'épate.
Mazette, quelle musique? Jean-Yves Larouturou, France Musique.
Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme, il y a autre chose.
Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour cette nouvelle émission de Mazette, quelle musique ! Aujourd'hui, troisième dimanche du mois, notre vagabondage musical suivra donc un thème de la vie ordinaire et qui pourtant, de mois en mois, demeure extraordinaire, la pleine lune. À 5h37 exactement ce matin, c'était la pleine lune. Et avec l'éternellement jeune poète Jean de la ville de Miremont, avec Gabriel Fauré dans l'efflorescence juvénile de sa dernière période créatrice, avec cette admirable mélodie dont nous célébrons aujourd'hui le centenaire, Diane Sélénée, lune de beau métal, aspirons à la paix de ta nocturne flamme. Diane Sélénée, pleine lune. Notre vagabondage nocturne nous donnera de contempler de multiples visages de la pleine lune, tels que révélés par six grands compositeurs. Aux alentours de 3 heures, nous aurons nos badineries coutumières en compagnie de Cyrano de Bergerac, qui nous éclairera, si j'ose dire, sur la couleur ou les couleurs de l'astre lunaire. Nous tâcherons également de ne pas rater la correspondance de 15h21, qui nous conduira en musique à la rencontre des loups-garous de la pleine lune. Et nous nous réconforterons ensuite avec un précieux antidote grâce à une précieuse et fameuse recette de Babin. Programme chargé, mais comme d'habitude, n'en faisons qu'à notre gré et prenons le temps de contempler la lune, astre resplendissant dans toute sa beauté. Tes rayons glacés peuvent embraser le cœur d'un amant, fait que pendant que je dors, d'amoureuses visions réjouissent mon âme éveillée. Tout l'art d'un des plus grands compositeurs de lamento sublime, mis au service, ici, d'un chant de béatitude extatique, tout aussi sublime, Lucidissima Face, extrait de la Callisto de Francesco Cavalli.
Thank you.
James Bowman était endymion, berger plongé dans l'extase amoureuse des rayons de la pleine lune. C'était au festival de Glyndebourne en 1971 pour la renaissance de la Callisto, opéra créé à Venise en 1651 et qui fit fureur dans toute l'Europe, sauf la France, par la beauté de sa musique, mais aussi le caractère hautement divertissant du livret, dont la verdeur montre sur scène toutes les formes d'amour physique, plus ou moins courantes, y compris la zoophilie. La bonne tenue de cette émission de service public du dimanche après-midi nous épargne d'entrer dans plus de détails. Réservons ça à nos émissions Mazette, quelle nuit ! La Callisto est un opéra mythologique, remémorons-nous donc quelques notions de base. Dans toutes les mythologies, la lune est un personnage, féminin ou masculin, très important. Dans la mythologie hindoue, par exemple, Chandra, divinité lunaire masculine, tient la coupe remplie de la liqueur d'immortalité. S'agissant des mythologies grecques et latines, les auteurs antiques s'en sont donnés à cœur joie et le résultat est d'une jolie complexité et d'une délicieuse incohérence, de quoi égarer le berger et tout un chacun. Phébé, la brillante fille d'Ouranos, le ciel et de Gaïa la terre, est associée à la lune. Mariée à son frère Céos, elle donne naissance à Leto, qui de Zeus enfante Apollon et Artémis. Diane Artémis, déesse de la nature sauvage, de la chasse, des accouchements, est aussi associée à la lune, comme son frère Apollon l'est au soleil. Sélénée, Luna en latin, est une cousine de Phébé. Sœur de l'aurore et du grand soleil Hélios, elle personnifie l'astre lunaire lui-même. Apercevante Endymion, endormie de béatitude dans sa lumière nocturne, elle descend du ciel, car tout immortelle qu'elle soit, un désir ardent l'attire vers le jeune berger d'une beauté prodigieuse, nous dit-on. Zeus accorda au berger de choisir ce qu'il voulait, et Endymion choisit de dormir toujours en restant immortel et éternellement jeune, ce qui ne l'empêcha pas, semble-t-il, de s'unir à Sélénée, ainsi naquit entre autres l'île de Naxos où nous étions il y a peu. Tout ça, évidemment, ébranle un peu la réputation de parfaite chasteté de la lune. Passons. Une autre cousine, issue également des Titanites, c'est Hécate. Elle personnifie aussi la lune. Comment s'y retrouver? Certains auteurs, dotés de l'admirable et très efficace rigueur de l'ingénieur, proposent de retenir que Sélénée, Luna, représente la pleine lune, Artémis, Diane, le croissant de lune, et Hécate, la nouvelle lune, la lune noire, la face obscure de l'astre. D'autres, plus nombreux et poètes comme Jean de la Ville de Mirmont ou Faustini, le librettiste de la Callisto, les confondent toutes dans leur affection. Ne choisissons pas, laissons-nous simplement saisir par les enchantements du duo d'Endymion et de Diane, leurs baisers langoureux, l'étreinte avec la pleine lune est-elle autre chose qu'un rêve du berger endormi? Peu importe, Janet Baker et Diane Artémis et Cat Sélénée Luna Phébé et son berger, toujours James Bowman.
Oh!
Après Francesco Cavalli et la pleine lune vénitienne, de l'extase bienheureuse d'Endymion jusqu'aux baisers les plus langoureux avec Diane, Claude Achille Debussy, musicien de la pleine lune s'il en est. Une des œuvres les plus célèbres de Debussy, et même de toute la musique classique, le Clair de lune pour piano, troisième pièce de la suite Bergamasque. Clair de lune, suite bergamasque, il y a là évidemment référence au poème de Verlaine, premier poème du recueil des Fêtes galantes, que Debussy, comme tant d'autres compositeurs, mettra en musique, et que nous dit aujourd'hui Jean Villard.
Votre âme est un paysage choisi que vont charmant masques et bergamasques, jouant du luth et dansant, et quasi tristes sous leur déguisement fantasque. Tout en chantant sur le mode mineur, l'amour vainqueur et la vie opportune, ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur, et leur chanson se mêle au clair de lune, au calme clair de lune triste et beau qui fait rêver les oiseaux dans les arbres et sangloter d'extase les jets d'eau, les grands jets d'eau sveltes parmi les mares.
Dans son clair de lune pour piano seul, Debussy nous présente une pleine lune sereine avec un thème qui, notamment dans ses variations de tempo, sait être passionné. Noté en dante expressif, c'est un climat d'une grande intensité émotionnelle, un climat joyeux, plutôt dépourvu de l'ambiguïté expressive qui emprunt le poème de Verlaine, une pièce qu'il faut jouer donc avec délicatesse, mais avec franchise, sans mièvrerie, et avec une agogique bien tenue, comme dans cette frémissante interprétation d'Alain Planès que nous venons d'entendre. Écrit en 1890, mais livré à l'éditeur en 1905 seulement, Clair de lune n'est qu'une des pièces pour piano de Debussy inspirées par la lune et la pleine lune. Parmi toutes ces pièces, nous allons écouter un des préludes du second livre écrit en 1912. Le titre, comme pour tous les préludes de Debussy, est inscrit entre parenthèses et à la fin de la partition, comme une simple suggestion après l'écoute. Il est même précédé de trois points de suspension, la terrasse des audiences du Clair de lune. Par rapport à Clair de lune et à 20 ans de distance, donc, c'est un tout autre visage de la pleine lune, plus objectif, distancié, moins affirmé, moins émotionnel, marqué lent, avec quelques passages un peu animés, si dièse à la clé, fa dièse majeur donc, mais en réalité une harmonie changeante, brouillée, des volutes lentes ou rapides, le plus souvent pianissimo, des arpèges, des fragments de chorale par grands accords comme d'inavouables réminiscences brahmsiennes, et à d'autres instants presque le piano d'Olivier Messiaen. Un travail minutieux du son qui se traduit entre autres par le recours aux trois pédales à la fois. Ce clair de lune répand une lumière cristalline, insaisissable, immanente, et dans les toutes dernières mesures, on entend un souvenir délicieux de gamelan javanais.
Thank you.
Autre génial musicien français qui sait bien dévoiler la pleine lune en musique, Hector Berlioz. Et ici, deux visages bien différents du clair de lune, mais tous les deux opératiques et empreints d'allant. Pas de cimetière sous la pleine lune des nuits d'été, donc. Tout d'abord, la fin du premier acte de Béatrice et Bénédicte, opéra comique créé à Baden-Baden en 1862 avec éclat et succès, sur un livret de Berlioz lui-même, d'après la joyeuse comédie de Shakespeare, Much Ado But Nothing, beaucoup de bruit pour rien. Nous sommes dans un parc, au-dessus du détroit de Messine, et ce duo nocturne sous un clair de lune sicilien est une merveille, comme la plupart des morceaux qui composent cette œuvre un peu négligée. Duo de Héro, fille du gouverneur de Messine, amoureuse et aimée de Claudio, et Ursule, sa suivante. Duo d'une beauté lyrique superlative qui traduit l'ivresse du bonheur et où s'épanouit sous la lumière de la pleine lune tout l'amour du très romantique Hector Berlioz pour la nature nocturne. La lune se lève et éclaire la nature de ses rayons qui se reflètent dans l'eau. Nuit paisible et sereine, la lune plane en souriant, harmonise infinie.
Thank you. Thank you.
Autre pleine lune au-dessus de la mer, autre duo sublime, toujours Berlioz pour les paroles et la musique. Pleine lune dans le jardin des terrasses du palais de Didon à Carthage, au quatrième acte des Troyens. L'inspiration n'est pas virgilienne, mais là encore shakespearienne. C'est en fait une transposition par Berlioz du fameux duo de Troïlus et Cressida. Musique splendide, à la fois d'exaltation passionnée et comme en suspension tel un rayon de la pleine lune. Musique qui se souvient de Gluck, qui connaît le bel canto, et Verdi et Wagner aussi, mais avant tout du Berlioz, Berlioz à son apogée, nuit d'ivresse et d'extase infinie. Plus que Séléné, c'est Artémis, et surtout Hécate, et même Phébé la brillante, qui préside à ce duo enflammé d'une ardeur amoureuse qui s'avoue enfin. Et l'avalanche de références mythologiques ne dissimule pas une passion violemment érotique. Nous laisserons Didon, Joyce DiDonato et aîné Michael Spiers à l'instant où ils franchissent le seuil de la chambre royale, parmi les voiles frémissant à la pleine lune et aux zéphyrs maritimes. Et les puristes nous pardonneront de couper avant l'apparition dans un rayon de cette pleine lune de Mercure et avant son rappel à l'ordre « Italie, Italie, Italie » qui inévitablement casse un peu l'ambiance. La pleine lune, qui faire? Comme l'écrivit Molière, on n'est pas sage quand on veut et les jeunes cervelles se démontent comme les vieilles.
Oh!
Après les pleines lunes de Fauré, de Cavalli, de Debussy, de Berlioz, Arnold Schoenberg et deux visages très contrastés du clair de lune. La nuit transfigurée d'abord, que nous avons déjà traversée dans Mazette, quelle musique, lors de cavalcades amoureuses et lors d'une déambulation nocturne sous les étoiles filantes, certains s'en souviennent peut-être. Sextuor composé en 1899 avec une transcription en 1917 révisée en 1943 pour grand orchestre à cordes. La nuit transfigurée est une somptueuse musique inspirée par un poème en quelque sorte sous-jacent de Richard Demel. Promenade nocturne dans une forêt en hiver d'un couple amoureux dont la femme avoue à l'homme qu'elle attend un enfant d'un autre. Enfant que l'homme accepte et le pardon, mieux l'amour transfiguré, donne à l'homme et à la femme de reprendre leur marche ensemble, joyeux. Toute la scène a lieu dans la lumière de la pleine lune et la lune est au cœur du poème et de la transfiguration. Comme le dit le poème, la lune les accompagne, la lune passe au-dessus des hauts chênes, pas un nuage ne trouble sa lumière céleste. Après son aveu, la femme relève le regard et la lune la suit. Son regard sombre se noie dans la lumière de la lune. L'homme s'exclame « Oh, regarde comme l'univers brille clairement, il y a une lumière radieuse qui nous entoure. » Et le poème s'achève sur ces mots « Ils vont à travers la nuit haute et claire. » Nuit haute et claire sous la lumière de la pleine lune, lieu de la transfiguration des sentiments et de la transfiguration de la nuit humaine elle-même. Nous écoutons dans une version d'une beauté irradiante, celle de la Philharmonie de Berlin sous la baguette d'Herbert von Karajan, la dernière partie de la Nuit transfigurée, récapitulation thématique et harmonique de l'œuvre, sublimée par des couleurs et des sonorités soyeuses, puis cristallines, sourdines, arpèges, trémolos subtils, sons harmoniques des violons, pizzicati, le tout dans un ré majeur lumineux, sous la pleine lune, à travers la nuit haute et claire.
Thank you.
du chef-d'œuvre hyper romantique d'un jeune compositeur, pour ainsi dire autodidacte, de 25 ans, nous passons à un autre chef-d'œuvre expérimental, expressionniste, mais, insistait Schoenberg, d'un ton léger, ironique et satirique, une des œuvres fondatrices de la musique du XXe siècle qui inspira Stravinsky, Ravel, Boulez, Berg, Stockhausen, Berlioz, etc. C'est Pierrot Lunaire, commandé en 1912 à Schoenberg par Albertine Zemme, une chanteuse, diseuse de cabaret, berlinoise, actrice, belle voix wagnérienne aussi, nous dit-on, qui demande à Schoenberg de mettre en musique dans un esprit et un format de cabaret la traduction allemande du recueil Pierrot Lunaire du poète belge Albert Giraud, poésie tout imprégnée d'une atmosphère très fin de siècle, avec tout ce qu'il faut de macabre, de provocateur, sur les thèmes de l'amour, de la sexualité, de la religion, le blasphème, la violence, le crime, la mélancolie. Poésie que personne n'a qualifiée de géniale jusqu'à présent, semble-t-il. Pour son opus 21, Schoenberg choisit 21 poèmes. L'œuvre, à la limite de la tonalité, est en rupture totale avec le Schoenberg que nous venons d'entendre et avec toute la musique post-romantique. Elle se singularise par un instrumentarium qui va devenir iconique. 8 instruments, piano, piccolo, flûte traversière, clarinette, clarinette basse, violon, alto et violoncelle, confiés à 5 instrumentistes, chaque pièce ayant sa propre combinaison de timbres. Pierrot Lunaire se singularise aussi par le recours au Sprechgesang, le parler chanté, ni chant ni récitation, mais fusion de la parole et de la ligne vocale dans le respect scrupuleux du rythme, des hauteurs de ton et des nuances lorsque c'est parfaitement interprété. Triomphe à la création, postérité donc toujours bien vivante, nous écoutons la deuxième pièce de ce recueil, À Colombine, personnification de la lune trompeuse et infidèle, fleur pâle du clair de lune. Yvonne Minton est accompagnée par Pinkas Zuckerman au violon, Daniel Barenboim au piano, Anthony Pay à la clarinette, Michel Dubos à la flûte, le tout sous la direction de Pierre Boulez, c'est luxueux et splendide. Sous toutes les latitudes et les longitudes, la pleine lune fascine en musique et inspire les compositeurs. Notre vagabondage nocturne et lunaire nous conduit à présent dans l'Inde du Nord pour entendre un bref extrait d'un raga. Un raga, vous savez, c'est une pièce de musique qui peut durer des dizaines de minutes, voire même des heures. Et c'est surtout une émotion, un sentiment cosmique, un ravissement esthétique, spirituel, qui permet à l'interprète comme à l'auditeur de s'accorder avec les harmoniques et les vibrations de la nature et du monde. Nous écoutons le raga Chandra Kons. Il faudrait sans doute d'ailleurs prononcer Chak Chandra Kans. Chandra, c'est le dieu hindou qui personnifie la lune, et Kans, c'est l'abréviation de Jag Mal Kans, c'est-à-dire un raga sérieux et méditatif. À défaut de pouvoir nous allonger mollement pour des heures de musique sous la lumière de Chandra, nous écoutons le tout début de ce raga de la pleine lune, joué par Himanshu Biwas au santour indien, une grande sitar, très vite rejoint par un joueur de tabla, une paire de petits tambours, puis par un joueur de luth. Thank you. sur le coup de 3 heures. L'heure des badineries, certes, mais ce n'est pas une raison pour éviter les questions d'une brûlante actualité. Exemple de question d'une brûlante actualité, quelle est la couleur de la lune ?
La lune blanche luit dans les bois.
Lune blanche donc, me direz-vous, avec Verlaine, Fauré et quelques autres, est-ce si sûr ? Demandons à Cyrano de Bergerac de nous éclairer, puisqu'il est l'auteur reconnu de l'histoire comique des États et empires de la lune.
La lune était en son plein, le ciel était découvert, et 9 heures au soir étaient sonnées, lorsque nous revenions d'une maison proche de Paris, 4 de mes amis et moi. Les diverses pensées que nous donna la vue de cette boule de safran nous défrayèrent sur le chemin. Les yeux noyés dans ce grand astre, tantôt l'un le prenait pour une lucarne du ciel par où l'on entrevoyait la gloire des bienheureuses. Tantôt l'autre protestait que c'était la platine où Diane dresse les rabats d'Apollo. Tantôt un autre s'écriait que ce pourrait bien être le soleil lui-même qui s'est tantôt soir dépouillé de ses rayons, regardait par un trou ce qu'on faisait au monde quand il n'y était plus. Et moi, dis-je, qui souhaite mêler mes enthousiasmes aux vôtres. Je crois, sans m'amuser aux imaginations pointues dont vous chatouillez le temps pour le faire marcher plus vite, que la lune est un monde comme celui-ci, à qui le nôtre sert de lune. La compagnie me régala d'un grand éclat de rire. Ainsi, peut-être, leur dis-je, se moque-t-on maintenant dans la lune de quelque autre qui soutient que ce globe-ci est un monde.
Bon, lune couleur safran. Lune rousse du printemps lorsque le gel roussit les premiers bourgeons et les jeunes feuilles, lune rousse orangée proche de l'horizon quand sa lumière est filtrée par l'atmosphère terrestre, mais aussi lune rousse, jaune, triste par les temps de grande pollution. Certains voient la lune rouge. Ainsi, dans cet extrait de Wozzeck, sur le chemin près de l'étang, la lune s'élève dans le ciel avec une gamme musicale de 12 notes, reprise par Marie, 6 notes. « Wie der Mond rot aufgehen », littéralement en français « comme la lune rouge s'élève ». Puis Wozzeck, 6 notes aussi, « Wie ein blutiges Eisen », comme un couteau sanglant. Tu trembles, que veux-tu ? Moi, rien, Marie, et personne d'autre non plus. Il la poignarde, et puis il constate la mort. Tôte, ce soir-là, la lune était vraiment rouge. Lune rouge ? Depuis 1934, d'aucuns la voient bleue, et pas seulement lorsqu'elle est la deuxième d'un mois ou la 13e d'une année. C'est même devenu un standard. Jugez-en, Blue Moon. blanche, rousse, rouge, bleu, lune, verte, surtout le 1er avril. C'est un canular très répandu sur la toile. Et de toute façon, Billie Holiday et Oscar Peterson nous ont mis en garde depuis longtemps. If the moon turns green, tout allait mal, j'ai eu un choc, un miracle m'est arrivé. Si la lune devenait verte, je ne serais pas surprise, ne serais-tu pas en effet tombé amoureux de moi ?
Shadows get up and walk around. Clouds come tumbling to the ground. I wouldn't be surprised. Us, didn't you fall in love with me? If the stars turn blue and willows that weep begin to sing, winter changes into spring, I wouldn't raise my eyes. 'Cause didn't you fall in love with me?
Pour Audrey Hepburn, qui n'est pas du tout du même avis que Cyrano, la lune devrait avoir la couleur d'une rivière de diamants de chez Tiffany's, Moon River. Très beau, blanche, rousse, rouge, bleu, verte, adamantine et une lune couleur de Dolanane, le gamelan de la pleine lune.
Mazette, quelle musique ? Jean-Yves Larouturou, France Musique.
Reprenons le cours de notre vagabondage sous l'astre nocturne avec Franz Schubert, grand musicien de la lune dans tous ses états et notamment de la pleine lune. La lune qui éclaire, accompagne, soutient le voyageur errant loin de son sol natal. Moi sur terre, toi au ciel, nous voyageons tous les deux, moi sérieuse et morose, toi douce et pure, qu'est-ce qui fait la différence ? Apparente simplicité, entrain pédestre, élan finalement enthousiaste, mais avec un grand art des modulations et des fluctuations entre majeur et mineur. Dietrich Fischer-Dieskau, merveilleux chanteur et diseur, est accompagné par le lumineux Gerald Moore, Der Wanderer an den Mond, composé en 1826.
Ernst und trüb, du mild und rein, was mag der Unterschied wohl sein? Ich wandre fremd von Land, so heimatlos, so unbekannt. Bergauf, bergab, Wald ein, Wald aus, doch bin ich nirgend ach zu Haus. Du aber wanderst auf und ab aus Ostens wie gen Westens Grab. Weißt Länder ein und Länder
endlos ausgespannt ist ein geliebtes Heimatland. O glücklich wer, wohin er geht, doch auf der Heimat wohnen steht. Glücklich wer, wohin er geht, doch auf der Heimat wohnen steht. Auf der
un tout autre visage schubertien de la Lune à présent, glaçant, désespéré, miroir de la mort et du néant, un chœur écrit aussi en 1826 pour quatre voix d'hommes a cappella, Grab und Mond, la tombe et la Lune. Un clair de lune bleu argenté descend du ciel et quelques rayons pénètrent dans la tombe. Chère Lune, amie du sommeil, ne te tais pas, dis-nous si dans la tombe règne l'ombre ou la lumière. Tout reste muet. Alles stumm. Eh bien, tombe silencieuse, parle donc, toi qui attires les rayons dans ta paix, toi qui retiens le clair de lune bleu argenté, rends-nous au moins un seul rayon, viens et vois. Dans la tombe, l'ombre ou la lumière, question métaphysique posée à la lune, avec gravité et angoisse, mais avec un peu d'espoir, comme le traduit le bref passage en majeur sur le mot Licht, la lumière. Tout reste muet, alles stumm, dissonance, silence pesant. La question s'adresse alors au tombeau lui-même qui engloutit tous les rayons de la pleine lune et comme dans un film d'horreur, le tombeau répond et par trois fois, d'abord fortissimo, il crie « Komm und schau, viens et regarde ». Et le dernier accord pianissimo est en majeur, mais il n'y a plus d'espoir, l'acceptation ou la résignation seulement. La correspondance de 15h21. La correspondance de 15h21 nous conduit aujourd'hui dans des endroits peu fréquentables. Aux temps antiques, on adorait particulièrement Hécate au carrefour, les jours de la lune noire. On lui sacrifiait des chiens et des loups parce qu'ils hurlent à la lune, notamment les jours de pleine lune. Que se passe-t-il les nuits de pleine lune? Que doit-on craindre? L'avis d'un physicien, Paul Prébois, dans le film assez documentaire « Il y a des jours et des lunes » de Claude Lelouch.
Les pleines lunes, il faut ne pas sortir, il faut boire de l'eau, ne pas prendre d'excitants, essayer de rester calme et, si on peut, éviter de la regarder. De la regarder pour ne pas être aspiré, pour pas... Cette nuit, il peut se passer des choses terribles, atroces, et la pleine lune, alors c'est maléfique. Il va y avoir des drames, il y a toujours des drames, et selon où elle est placée, si la pleine lune est du côté beaucoup plus de la côte européenne et qu'elle aspire, il peut y avoir des drames terribles. On ne sait rien, on est sur une planète de fous, et au plus on étudie, au plus on apprend, on dit « Mon Dieu, je ne sais rien ».
Un second avis peut-être, celui d'Hérodote, il y a 25 siècles, et c'est le premier, semble-t-il, à noter l'existence des lycanthropes, c'est-à-dire des hommes qui, la nuit, plus particulièrement les nuits de pleine lune, se transforment contre leur gré en loups-garous, mi-hommes, mi-loups. Ainsi affublés d'une grande gueule aux dents crochues, dotés d'un regard étincelant, ils deviennent féroces. On nous les décrit amateurs de chair fraîche, ne faisant pas les difficiles, acceptant de dévorer bêtes ou hommes, mais gourmets et préférant les enfants.
Mon petit loup, reste pas là, ça devient chelou. Mon petit loup, éloigne-toi et un loup-garou. Mon petit loup, reste pas là, ça devient chelou.
Au petit matin, ils retrouvent figure humaine et n'ont plus souvenance de leurs méfaits nocturnes. Cette double métamorphose, aller et retour, et à mon avis les excès de bonne chair nocturne que prohibent la plupart des diététiciens, les laissent faibles, tourmentés et dépressifs. Les nuits de pleine lune, il leur arrive d'accompagner Hécate dans ses cortèges nocturnes et solennels. Ainsi, en 1653, dans le fameux ballet royal de la nuit commandé par Mazarin, spectacle fastueux où le jeune danseur de 15 ans scintillant d'or et de pierreries qui incarnait le soleil levant n'était autre que Louis XIV en personne, l'apparition de 6 loups-garous au milieu du sabbat de sorcières de la pleine lune fit sensation. Très bien. Comment se protéger contre les loups-garous les nuits de pleine lune? On peut se barricader chez soi, mais attention aux fenestrons mal fermés. Si vous avez un doute, regardez l'excellent film Chaos des frères Taviani, adaptation de 5 nouvelles de Luigi Pirandello, dont Mal di Luna, le mal de lune, qui montre au cœur de la Sicile l'amour et le désir d'une jeune épousée pour son mari, et le surgissement de la terreur lorsqu'à la première nuit de pleine lune après la noce, elle découvre le mal inconnu, violent et irrépressible de celui-ci. D'autres solutions éprouvées sont pratiquées dans de nombreuses régions, parfois depuis l'Antiquité. La danse, par exemple, car les loups-garous en sont fous et ils ne renoncent jamais à danser, sauf lorsqu'ils sont épuisés et qu'ils s'effondrent après avoir virevolté dans tous les sens en dansant le fandango.
Thank you.
Autre solution garantie, l'amande qui a la couleur et parfois la forme de la lune, la tendresse des biscuits addictifs que l'on confectionne avec l'amande hachée fait, dit-on, chanceler les loups-garous. Bénéficiant des relations privilégiées nouées entre France Musique et Margot Babin, vous trouverez sur notre site la recette des biscuits aux amandes auxquels, de souvenance immémoriale, nul n'a pu résister, loup-garou ou pas. Il y a quelques jours des fêtes, pourquoi résisterait-on ? Comme toujours, le secret de la réussite exceptionnelle de la recette de Babin tient à son apparente simplicité et au respect de trois éléments cruciaux. Les proportions, évidemment. En second lieu, l'utilisation d'amandes de qualité hachées grossièrement et non des poudres industrielles du commerce. Et enfin, surtout, ne pas lésiner sur le rhum, sans excès bien sûr, ni sur le temps de repos de la pâte. Une demi-journée est un minimum. Naturellement, rien n'interdit de donner à ces biscuits en amande la forme d'un croissant, d'une demi-lune ou d'une pleine lune. Les loups-garous de votre entourage, les vrais et les autres, n'en seront que plus heureux.
France Musique, Mazette, quelle musique ? Jean-Yves Larouturou.
De forêt à forêt, de Diane Séléné au début de notre émission au calme clair de lune, triste et beau, les deux chantés avec un art incomparable par Camille Morane, accompagnée au piano par Lily Bienvenue. Notre vagabondage sous la pleine lune s'achève. Premier vagabondage, car le chant constellé des musiques de la pleine lune est un vaste paysage, nous y reviendrons. Sur la page Mazette, quelle musique du site de France Musique, vous trouverez toute la programmation musicale d'aujourd'hui, la réécoute, le podcast de cette émission et de celles qui l'ont précédée. Pour cette émission sidérale, la fine équipe était au complet, Nelly Portal pour le site, Régis Nicolas et Laurent Lefrançois, ce qui n'est pas rien. Rendez-vous dimanche prochain, même lieu, même heure, excellente semaine sur France Musique et dans moins d'une minute, Brut d'accordéon avec Félicien Galliano et Richard Bru, ou l'inverse.
À réécouter sur francemusique.fr.